Tu rêves d'un raccourci pour prendre du recul, être aligné et retrouver ce qui apporte du sens dans ta vie? Je te comprends, j'étais comme toi. Grâce au bilan de compétences nouvelle génération de Pourquoi pas moi, en moins de 3 mois, tu vas apprendre à te connaître et oser dépasser tes peurs, le tout avec plaisir et à ton rythme. Si tu veux bénéficier d'un financement à 100% avec ton compte personnel de formation, inscris-toi vite avant le 1er mai, car après, il y aura un reste à charge de 100 euros. Pour en savoir plus, je te donne rendez-vous dans le lien de la description. Je suis très heureuse de partager avec vous cet épisode best-of de Pourquoi pas moi. L'occasion de découvrir ou redécouvrir le parcours de certains de mes invités. Bonne écoute.
C'est une grosse erreur d'attendre d'avoir confiance en quelque chose pour faire le truc que tu sens que tu dois faire. Parce que la confiance se bâtit au fur et à mesure que tu le fais. J'ai fait une entrée de zone. Là, je suis devenu très confortable, confiant dans quelque chose de complètement nouveau, c'est-à-dire dans le métier d'auteur et conférencier. Truc que je ne pensais jamais faire de ma vie. Je m'étais jamais dit un jour je vais écrire un livre. À 41 ans, je n'avais jamais rien écrit. Je dédramatise le changement et je fais prendre conscience aux gens que le changement, c'est bon, c'est pas mauvais. C'est une bonne chose que ça arrive. Donc, mais à chaque fois, j'avais pas confiance. Au début, c'était difficile. Je pensais abandonner. Je pensais que je n'étais pas fait pour ça. Bon, ça, je le sais maintenant. Ce n'est qu'une période transitoire. C'est ça, une sortie de zone.
Je suis Charlotte Desrosiers-Natral et je suis heureuse de vous accueillir sur Pourquoi pas moi. On a tous rêvé un jour de changer de vie. Certains ont osé écouter leur petite voix et ils ne le regrettent pas. Écoutez ces témoignages qui permettent de décrypter ce qui se passe concrètement entre le moment où on se dit dans sa tête « Pourquoi pas moi ?» au moment où on rend tout cela possible. « Pourquoi pas moi ?» le podcast qui vous invite à écouter votre petite voix. Avant de commencer, je souhaite vous dire un immense merci à tous pour l'accueil que vous avez réservé à mon podcast. Après 3 jours de lancement, « Pourquoi pas moi ?» était sur la home des podcasts de Deezer et de celle d'Apple Podcasts dans la catégorie « Éducation ». Avec plus d'une centaine de notes et des milliers d'écoutes. Aujourd'hui, comme pour Laurent Régaraz, alias Chicandier, que vous pourrez écouter dans le 2e épisode, si ce n'est pas déjà fait, mon invité ne me connaissait pas. Mais j'avais une envie brûlante de l'interviewer. J'ai donc écouté ma petite voix, je l'ai contacté sur son site web et il m'a dit oui. Écoutez bien jusqu'à la fin, car j'aurai une petite surprise pour vous. Si vous avez déjà entendu parler de Daniel Blouin, vous vous direz probablement que c'était une évidence que je l'interviewe. Vous ne connaissez pas encore Daniel ? Je suis très fière d'être celle qui va vous permettre de le découvrir. Daniel est québécois, vit et parcourt le monde pour faire des conférences. Daniel a eu plusieurs vies. En effet, il a participé à une tournée mondiale du groupe américain Up With People, a ensuite été producteur de disques pour des stars de la chanson canadienne, puis cofondateur d'une agence de communication spécialisée dans la promotion de vedettes canadiennes et internationales comme Céline Dion ou Elton John. Il est également le créateur de championnats de hockey. Sa dernière sortie de zone a été il y a 7 ans, où il est devenu écrivain, coach, conférencier international sur ses sorties de zone. Bienvenue dans l'univers de Daniel Blouin. Daniel, peux-tu nous parler de l'objet que tu as ramené pour te présenter, s'il te plaît?
Mon livre. Tu veux que je te parle de mon livre « Sortie de zone » ou « Entrée de zone », c'est le même sujet. J'ai écrit 2 livres sur... mes 2 livres, c'est pour tous ceux qui songent à effectuer un changement dans leur travail, leur carrière ou leur vie, mais qui n'osent pas sortir de leur zone de confort par peur. Par peur de l'insécurité financière, le jugement des autres, de l'inconnu, peur de l'échec et tout ça. Donc, c'est pour aider les gens à faciliter et accélérer leur processus de changement. Et surtout pour souffrir le moins possible. Parce que le changement, c'est difficile, c'est stressant, c'est angoissant. Mais il y a façon de souffrir beaucoup moins lorsqu'on comprend et on a conscience du processus de sortie de zone de confort. Maintenant, plus j'en parle, plus je suis convaincu à 1000% de ce que je dis. À l'époque, je l'étais à 99,9, mais maintenant que j'ai des témoignages de partout dans le monde, de tous les types de personnes, de riches, pauvres, jeunes, vieux, en Polynésie ou Maroc, en France, ou peu importe que ce soit au Québec, un cerveau, c'est un cerveau. On a tous des poussées de vie, des trucs qu'on sent qu'on doit faire, qu'on veut faire. Parfois, on ressent qu'on est rendu un Y dans notre vie. Hein. Qu'on doit tourner à droite ou choisir de tourner à droite ou à gauche. Et là, on ne sait pas trop si on va à droite ou à gauche. On fait le changement ou on ne le fait pas, ou on reste dans notre zone. Donc, c'est de prendre des décisions. Est-ce que je suis en train de persévérer, je dois persévérer dans ce que je fais, ou je suis en train de m'acharner dans la mauvaise direction? Il y a une très grande différence entre s'acharner et persévérer. Il y en a une. S'acharner, ça implique une sortie de zone obligatoire pour revenir à la bonne place. Mais persévérer, bon, oui, c'est difficile, le changement. C'est lorsqu'on est entre deux zones de confort, qu'on est dans le stress et qu'on doute. C'est là que c'est difficile. Lorsqu'on a la vie dans la face, que j'appelle, le nez à contre-courant, entre deux zones, entre deux fosses. Parce que je fais souvent une analogie avec la vie du saumon.
Du saumon.
Du Pacifique. Parce que moi, mes idoles, pour vrai, je pense que c'est les saumons. Ce qui m'impressionne, c'est que depuis des milliers d'années, aucun saumon ne s'est trompé. Ils reprennent tous la bonne rivière, qui va les faire revenir à leur source, dans la rivière dans laquelle ils sont nés, jusqu'au bout de la rivière où ils sont nés. Et une fois qu'ils rentrent dans la bonne rivière, basé sur leur ressenti, on s'entend, c'est pas rationnel, hein, un saumon, basé sur leur ressenti, une fois qu'ils rentrent dans la bonne rivière, leur vie, c'est la même chose que nous. C'est-à-dire une succession continue de fausse courant. Zone de confort, transition difficile. Zone de confort, transition difficile. Et c'est l'histoire d'une vie. Ce n'est pas qu'à la crise de la quarantaine.
Tout à fait.
Non, c'est du début à la fin. Donc, lorsqu'on sait ça d'avance, ça dédramatise tout le processus parce qu'on sait que c'est normal, que la vie n'est pas contre nous, la Terre tourne, et elle s'en fout complètement qu'on ait le goût ou non. Que la vie nous impose le changement ou qu'on le sente, on en parlait tout à l'heure avant l'entrevue, si on le ressent, de toute façon, on n'aura pas le choix à un moment donné.
C'est ça.
Si on résiste le plus longtemps possible, on va tous se rendre au burn-out, à la dépression.
On prend un mur. Et ça fait mal et on met du temps à se lever.
Et ça fait encore plus mal et ça prend encore plus de temps.
Ouais.
Si je fais ce que je fais aujourd'hui avec mes livres, mes conférences, tout ce que je fais sur le web, c'est pour que les gens ne se rendent justement pas là, au mur, à souffrir trop, complètement, inutilement. Donc, je dédramatise le changement et je fais prendre conscience aux gens que le changement, c'est bon, c'est pas mauvais. C'est une bonne chose que ça arrive. Parce qu'on a tellement peur du changement. On a tellement une mauvaise perception du changement. Et la preuve, c'est que justement, on appelle ça la crise de la quarantaine. Pourquoi le mot crise? Rattaché au mot crise, il n'y a rien de positif. Un pays en crise, ça ne va pas bien. Une crise cardiaque, ça n'est pas souhaitable à personne. Et nous, on appelle ça la crise de la quarantaine. Au lieu d'appeler ça l'éveil de la quarantaine, enfin, le zombie se réveille de la quarantaine.
La renaissance, la
enfin, le quarantenaire, je ne sais même pas comment on appelle ça. Mais enfin, la personne de 40 ans se pose des vraies questions et arrête de suivre le troupeau. Parce qu'à un certain moment donné, on est comme gelé, on est hypnotisé du cerveau. On se pose plus de questions. On fait copier-coller. On est sur l'autoroute. On ne prend pas la petite sortie. Mais c'est ce que je trouve dommage. Parce qu'on passe à côté de quelque chose souvent de très, très beau. Si on avait pris la petite sortie, là, c'est sur les petits chemins de campagne hein, qu'on voit des beaux paysages. Parce que sur l'autoroute, c'est quand même monotone. Hein? C'est facile, c'est confortable. On ne se pose plus de questions sur l'autoroute. Et ça nous hypnotise. Je suis premier à être hypnotisé quand je suis sur l'autoroute. Parfois, j'oublie de prendre les sorties parce que je ne réfléchis plus. Je suis parti, je ne pense plus.
Tu es en pilote automatique.
Pilote automatique, exact. On est tous, on tombe tous toujours un jour ou l'autre, sur le pilote automatique. Mais c'est de se recommencer à se poser des vraies questions.
Et toi, du coup, dans ta vie, il y a eu plusieurs sorties de zone.
Oui, quelques-unes.
Quelques-unes, oui. Mais quand même des
majeures.
Des majeures, oui. Et où il y a eu du courage. Est-ce que, avant qu'on parte de tes sorties de zone, est-ce que tu peux nous raconter d'où tu viens? Donc, tu es Canadien.
Oui.
Et donc, tes parents sont professeurs tous les deux. Donc, on peut dire que potentiellement, ils ont une vie qui est un autoroute, mais en fait, finalement, non, parce qu'ils ont réussi aussi à s'ouvrir en déménageant notamment à.
Eh bien, écoute,
à l'étranger.
J'ai évolué la grande majorité partie de ma vie à Québec, dans la ville de Québec, au Québec, mais j'habitais, je retourne très loin dans mon enfance, mais de 2 à 4 ans en Provence. Mm-hmm. Et à l'âge de 13 ans environ, j'habitais en Ontario,
D'accord. Une
province anglophone du Canada. Mais ça, c'est. Oui, ça m'a aidé à dédramatiser le changement. C'est sûr que ça m'a aidé dans mon processus. je savais que c'était pas la fin du monde, qu'on ne meurt pas à vivre des sortes, des grandes sorties de zone géographiques.
Ouais.
Et oui, mes parents m'ont... C'est vrai que j'ai été très encouragé et supporté dans mes changements. Même si ça fait toujours peur à tout le monde et que c'est toujours difficile. Mais mes parents n'ont jamais été un blocage, un frein. J'ai eu la chance. Ça, c'est une chance parce que je ne l'ai pas choisi, je n'ai pas fait exprès. J'ai eu les parents que j'ai eus. Là. Et donc, je leur dois beaucoup à ce niveau-là. Mais oui, j'ai eu quelques grands changements dans ma vie. Je dirais que j'ai eu trois grandes fosses, ce que j'appelle des fosses, des zones, trois grandes zones. C'est-à-dire producteur de disques pour des grandes vedettes de la chanson au Québec pendant 5 ans. Et ensuite, pendant 12 années, j'ai eu ma propre agence de communication qui faisait la promotion des grandes vedettes internationales, que ce soit en chanson ou en humour au Québec, comme tu disais tout à l'heure, de Céline Dion, Cirque du Soleil, Elton John, toutes les grandes vedettes que vous connaissez. Et ça, j'ai fait ça pendant 12 années. Et ma dernière grande zone dans laquelle je suis encore, j'ai fait une entrée de zone. Là, je suis devenu très confortable, confiant dans quelque chose de complètement nouveau, c'est-à-dire dans le métier d'auteur et conférencier. Truc que je ne pensais jamais faire de ma vie. Je m'étais jamais dit un jour, je vais écrire un livre. À 41 ans, je n'avais jamais rien écrit.
Justement, tu te disais quoi quand tu étais petit? Qui était le petit Daniel? Qu'est-ce qu'il se disait? Quand je serai grand, qu'est-ce que je ferai?
Un petit Daniel au Québec voulait devenir joueur de hockey professionnel. Mais quand tu n'as pas assez de talent en hockey, tu fais autre chose. Moi, à l'époque, j'ai voulu devenir journaliste. J'ai voulu devenir médecin. En tout cas, on a tous des petites passes, des petites bulles que j'appelle, des petites poussées de vie. Mais c'est drôle parce que dernièrement, quand j'ai fait ma grande sortie de zone, ma dernière grande sortie de zone au début de la quarantaine, j'ai vendu ma société. J'ai donné les parts de ma société à ma partenaire, mon associé, la société qui faisait la promotion des grandes vedettes internationales. Et dans ma tête, j'avais plein de petites bulles. Des petites bulles, c'est ce que j'appelle des trucs, des petites poussées de vie, des trucs que j'aimais. Mais c'était jamais 100% de un ou de l'autre. C'était tout le temps un petit bout. Par exemple, quand je dis des petites bulles, moi, je travaillais avec des humoristes. Je faisais la promotion des humoristes très connus au Québec et internationaux. Et le petit bout, là, moi, je les voyais aller, là, je les voyais aller sur la scène, parler pendant 2 heures, faire des blagues. Après ça, c'était fini. Leur travail est fini, tout le monde est heureux, ils sont très bien payés. Là, je me disais, c'est quand même cool, cette portion de travail-là, de faire ça dans la vie. Mais je ne voulais pas devenir un humoriste. Mais j'aimais beaucoup cette portion de travail. Et il y a une autre portion que j'aimais, c'est, je me disais, c'est quand même cool, un médecin qui est assis à son bureau, dans sa clinique. Des gens font la file toute la journée pour lui parler, lui demander conseil. Et lui, il est assis, il discute avec eux, il donne ses conseils. La personne quitte et son travail est fini. Moi, je trouvais ça cool, cette portion de travail-là. Et une autre portion que j'aimais aussi, c'est les gens qui sont sur la route. Moi, quand j'ai quitté ma société, je n'avais aucune idée de ce que j'allais faire dans la vie, mais je me disais, je veux être sur la route. J'avais juste une phrase, sur la route, sur la route, sur la route, tellement que je me suis dit, c'est peut-être de devenir un camionneur. Je suis, pour de vrai, je suis allé à des séances d'information pour devenir camionneur. Et là, j'ai réalisé que bon, ce n'est pas ça à 100%. Sur la route, oui, mais pas comme camionneur. Mais c'est donc médecin, humoriste, camionneur. J'avais ces trois bulles-là. Et a suivi ma quatrième grande bulle, c'est-à-dire mon obsession pour le concept sortie de zone de confort. J'ai écrit là-dessus. Mais ça m'a amené directement à mes trois autres bulles. Parce que maintenant, aujourd'hui, je suis sur la route. Ouais. Je peux pas être plus sur la route que ça. Là. J'ai 10 tournées en Europe juste cette année, jusqu'à l'île de la Réunion. J'ai fait 300 conférences dans 6 pays environ jusqu'à ce jour. Donc, je suis toujours sur la route. Mm-hmm. Ça, c'est ma portion camionneur. Je suis obsédé par mon sujet et je fais la portion humoriste parce que je donne des conférences. Je vais parler 2 heures, les gens trouvent ça drôle et je quitte, mon travail est fini. Mm-hmm. Et ça, je trouve. Donc, j'ai retrouvé le côté camionneur, humoriste et la portion médecin. Maintenant, je fais plein de consultations privées de gens qui veulent des coaching privé, de gens qui veulent changer de vie ou faire un changement quelconque. Et je donne mes conseils. Je dis, les gens me racontent et moi, je donne mes conseils avec l'expérience que j'ai. Donc, j'ai la portion médecin. C'est le petit bout de médecin que moi, j'aimais.
Ouais.
Donc, maintenant, là, toutes ces petites bulles-là ont créé une grosse bulle. Mm-hmm. Elles sont toutes là, ces petites bulles-là, mais dans ma grosse bulle, qui est le métier que je fais aujourd'hui.
Qui fait que aujourd'hui, c'est fantastique. T'es heureux.
Absolument. Et on a tous des petites bulles comme ça, des petites poussées de vie, des trucs qui nous allument. Ça, je dis que c'est tout plein de petites prises électriques dans lesquelles on se met le doigt. Là, on prend des petits chocs électriques. Ah, ça, j'aime ça un petit peu. Ah, ça, j'aime ça aussi. Mais à un moment, parce qu'il y en a plusieurs qui me disent, j'ai plusieurs bulles. Mm-hmm. Moi, je suis une bouteille de champagne, j'ai plein de bulles. Mais je ne sais pas quelle bulle choisir, vers où je marche. quand tu fais une obsession de ça, là, à un moment donné, toutes ces petites bulles-là se mettent ensemble. Mm-hmm. Mais il faut que tu avances vers la plus grosse. La plus grosse bulle, moi, ça a été ma révélation de mon sujet. Là. Je suis devenu obsédé par le sujet sortie de zone, qui m'a mené à mes autres petites bulles. Mais c'est comme mettre des cailloux, là, la théorie des cailloux. Là. Si tu veux rentrer tous les cailloux dans un bocal, ben, tu dois commencer par le plus gros caillou et ensuite mettre les autres petits cailloux. Et là, tu vas pouvoir remplir le bocal. Mais avec les bulles, c'est la même chose. Tu dois mettre la plus grosse bulle. Et quand je dis la plus grosse bulle, c'est de marcher vers ce qui crée le plus d'enthousiasme et de joie et de feu d'artifice dans notre tête.
Écouter son ventre et son corps.
Ça, c'est directement relié à la joie, l'enthousiasme et la passion. Ça, c'est ça. Si tu marches vers là, peu importe c'est quoi ta joie, ce qui crée de la joie, de l'enthousiasme ou des feux d'artifice dans ta tête, si tu marches vers là, c'est sûr et certain qu'il va se passer quelque chose. Et d'habitude, une grosse erreur qu'on fait, c'est parce qu'on ne sait pas ce que ça va donner, on essaye de prévoir l'avenir en se disant, je vais prévoir ce qui va arriver dans un an. Parce que là, je ne sais pas si je dois le faire, oui ou non. Là. Je vais essayer de prévoir au niveau rationnel ce qui va arriver dans un an, deux ans, trois ans, quatre ans, pour décider si aujourd'hui, je dois faire le truc que je sens que je dois faire. C'est la pire erreur à faire parce que l'humain n'est pas assez intelligent pour ça. On ne peut pas savoir. Je l'ai prouvé mille fois. Là. Moi, les résultats de fou, là, j'aurais été le pire des cons à essayer de prédire ça. Là. C'était impossible à prévoir ce qui allait arriver comme truc de fou ou de ouf, comme vous dites ici. Mais il faut que tu avances au fur et à mesure. Le chemin ne se présente qu'au fur et à mesure. Oui, absolument. Ça, c'est difficile d'être patient. C'est un de mes grands défauts. Je ne suis pas patient. Je suis le premier qui tirerait sur une fleur pour qu'elle pousse ou sur un arbre pour qu'il pousse. Mais ça ne sert à rien. Mm-hmm. Le seul truc qu'on doit faire, c'est planter l'arbre. Et une fois qu'il est planté, donc ta graine, ton projet, peu importe c'est quoi, là, c'est à chaque jour mettre du soleil et de l'eau. C'est tout ce que tu as à faire. Tu ne peux rien faire autre. Donc, mettre du soleil et de l'eau, c'est sûr que ça va pousser. C'est des mathématiques, c'est sûr. Et mettre du soleil et de l'eau, ça veut dire marcher à chaque jour, faire des pas vers ce qui crée beaucoup de joie et d'enthousiasme. Et ça, c'est des mathématiques, c'est pas de la croyance.
Après, il faut quand même bien se connaître pour savoir ce qu'on aime, parce que finalement, parfois, quand on a fait un burn-out, on a une espèce de perte de confiance en soi, perte de qui on est. On s'est perdu pour en arriver là.
Oui.
Et donc, il y a quand même un travail à faire de savoir qui je suis, qu'est-ce que j'aime et reprendre la confiance. Oui.
Et pourquoi qu'on se rend... Ça, c'est selon moi, c'est ma théorie. Mm-hmm. Mais pourquoi on se rend au burn-out et la dépression? C'est parce qu'on n'est pas conscient que nos désirs... Je ne sais pas si on n'est pas conscient ou on n'accepte pas ou on ne veut pas savoir, ou parce que c'est difficile à assumer, là, que nos désirs, nos aspirations, nos rêves changent continuellement dans la vie. Parce qu'on a comme la fausse impression qu'une fois qu'on étudie dans ce qu'on étudie, là, on commence à travailler là-dedans. Là. Après ça, si on est normal et stable...
C'est pour toujours.
C'est pour toujours. Une fois que tu es là, c'est fini, tu as trouvé, tu es arrivé sur le sommet de la montagne, et là, tu restes là.
Et d'ailleurs,
il n'y aura plus de changement dans la vie.
Et quand tu changes, les gens te disent, mais mon Dieu, tu changes. C'est n'importe quoi, comme mais t'as si la bougeotte.
Comme si tu étais instable.
C'est ça, exactement.
Oh, mais c'est parce que la Terre tourne et tu vieillis. À chaque jour, tu vieillis. C'est sûr et certain, garanti, que tes désirs, tes aspirations, tes rêves vont changer continuellement dans la vie. Donc, de ne pas accepter ça, de ne pas assumer ça, on devient rigide et on souffre.
Ouais.
Parce qu'on grandit, on évolue, nos désirs changent, la Terre tourne. Et si on ne s'adapte pas à ça continuellement, c'est continuel, c'est un travail de tous les jours. Moi, je ne sais pas, je ne me suis jamais dit dans 2 mois, dans 6 mois, dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, ce que je vais faire, je n'ai aucune idée. Moi, je le sais au fur et à mesure. Jour après jour, ce qui crée de la joie et d'enthousiasme tout de suite, non? Je sais que je marche dans la bonne direction. Je ne sais pas te prédire l'avenir. Il y en a plein qui me demandent, c'est quoi? Mais c'est moi. Oui, ça prend des rêves, mais c'est ce qui crée de la joie tout de suite, non? Pas dans 1 an, 2 ans, 4 ans. C'est quoi tout de suite là, qui crée de la joie, non? Mais marche vers là. Je te jure, le chemin va se présenter au fur et à mesure. Parce que ça, c'est une autre chose que j'ai appris. Si nous, on a les bulles qu'on a, là, ce n'est pas un hasard. Moi, mes bulles, là, ce ne sont pas dans ta tête. Tes bulles ne sont pas dans ma tête. Et ça, une des pires erreurs à faire, c'est d'essayer de comparer nos bulles, de se comparer aux autres. On a 7-8 milliards d'empreintes digitales différentes. On a 7-8 milliards de bulles différentes. Ça ne sert à rien de comparer nos bulles. Et ça, c'est aussi ridicule de de poser la question aux autres de l'entourage direct, là, qui ne comprend pas nécessairement ce qu'on vit, là, de demander aux autres de l'entourage direct qui ne comprend rien de ce qu'on vit, là, est-ce que tu penses que ce que je sens, je le sens pour vrai? Là? C'est aussi ridicule que si je te posais la question, est-ce que tu sens que moi, j'ai envie de pisser aujourd'hui? Présentement, est-ce que tu sens que j'ai envie de pisser? Mais tu le sais pas, toi. C'est moi qui le sens. Là. Toi, tu n'as aucune idée. Là. C'est moi qui sais si je sens que j'ai envie de pisser. C'est aussi ridicule que ça. S'il fallait que je te pose la question, ça serait ridicule. Mais dans la vie, c'est la même chose. Nous sentons tous ce qu'on est supposé sentir et les autres n'ont aucune idée. Là. Tout ce qu'ils peuvent voir dans nos yeux, là, c'est la joie et l'enthousiasme ou quelqu'un qui s'éteint. C'est juste ça qu'on peut voir. On ne peut pas rien voir d'autre. Là. La joie, l'enthousiasme ou la tristesse. Quelqu'un qui s'éteint, c'est quelqu'un qui souffre. Puis plus il s'éteint, plus il souffre. Et ça devient des symptômes psychologiques, physiques. On se met à mal dormir. On se met à prendre plus d'alcool. On se met à devenir plus agressif.
Toi, dans un de tes changements de vie entre Montréal et Québec, tu disais que tu avais eu des problèmes de respiration.
Oui, absolument. Puis je le raconte souvent aussi en conférence. Tellement je résistais au changement, moi, à 28 ans. J'ai comme découvert que la Terre tourne, justement, que nos désirs, nos aspirations changent dans la vie. Et je résistais à ça. Parce que je pensais que dans la vie, tu étudies, tu commences à travailler dans ce que tu étudies. Et si tu es normal et stable, il va y avoir un blackout, un trou noir d'environ 40 ans. Il n'y aura pas de changement là-dedans. Il va n'y avoir que deux autres sorties de zone importantes, la retraite et la mort. Moi, je pensais que c'était ça, la vie. Donc, à 28 ans, moi, je pensais que j'allais être producteur de disques toute ma vie. Je pensais que c'était ça, la vie. Mais je sentais que c'était pas ça, c'était plus ça. Et là, je résistais à ça et je commençais à souffrir. Je commençais à mal respirer. Et je suis allé chez le médecin. Je lui ai dit, écoute, moi, probablement que je vais faire de l'asthme parce que je respire mal. Donc, il m'a prescrit une pompe à asthme et je suis sorti du bureau avec une pompe à asthme. Moi, je pensais que c'était un virus, l'asthme. Moi, je n'avais pas fait le lien entre s'éteindre et l'asthme. Et tellement que je jouais au hockey sur glace avec ma pompe à asthme sur le banc des joueurs. Et à chaque fois qu'on se déplaçait sur le banc, moi, je déplaçais ma pompe à asthme entre les joueurs. Parce que, hey, c'est dangereux. Si je suis un asthmatique là, et que je fais une crise d'asthme sur la glace hein, pendant que je joue, c'est dangereux. Il faut absolument que ma pompe à asthme soit à côté de moi, toujours. Je te confirme aujourd'hui que je n'ai jamais fait d'asthme de ma vie. Je joue au hockey sur glace encore à chaque semaine. Je suis 20 ans plus vieux, beaucoup plus vieux. Et je ne joue pas avec une pompe à asthme. Moi, j'ai juste appris à 28 ans que lorsque je résiste au changement, à ce que je sens que je dois faire, je commence à mal respirer.
Et ça s'est renouvelé après dans ta vie?
À 40 ans. Ouais. Oui.
C'est toujours le même symptôme?
Oui. J'ai recommencé à faire de l'asthme. Mais là, je savais que ce n'était pas de l'asthme. Ouais. Je résistais au changement. Et j'ai appris aussi au fur et à mesure que d'autres, moi, c'est les poumons. Il y en a d'autres que c'est des maux de ventre, des maux de tête, des maux de dos, de l'eczéma. Ça ne prend pas 8 doctorants en psychologie, en médecine pour faire des petits liens.
Je connais une personne que je vais bientôt interviewer. Lui, il a perdu, il est venu paralysé des jambes, il n'arrivait plus à marcher. Donc, ils ont été hyper inquiets comme ça. Du jour au lendemain, ils ont cru que c'était neurologique et tout. Et en fait, c'était juste qu'il était en train de faire un burn-out. Et non, entre guillemets, juste.
Non.
Ah, si. Ouais, c'est...
Il est en train de faire un burn-out, ouais. C'est le paralysé des jambes.
Il avait du mal à marcher, il boitait.
Non. Ouais. Ça, c'est la première fois que je l'entends, mais ça, c'est fou.
Ouais, c'est fou. Ouais.
T'imagines? Ah. Wow.
Ouais.
Et là, il est pas paralysé du tout des jambes.
Non, maintenant, il marche, il va très bien et il a changé de vie.
Ben exact, ouais. C'est impliquant. Wow, c'est fou. Hein? Mais ce n'est qu'un autre exemple très concret. Mais c'est spectaculaire. Écoute, j'entends des histoires là, de fous. des maux physiques, juste à cause de la résistance au changement et de ne plus être à la bonne place. Hein. Je te donne un exemple très concret. Là. J'étais chez le médecin pour un examen de routine il n'y a pas très longtemps. Et là, la médecin me pose dans une clinique privée. Puis là, elle me pose la question, « Toi, tu fais quoi dans la vie? » Donc là, je lui parle de sortie de zone, mes livres, mes conférences. Elle dit, « Ah ouais. » Elle dit, « Moi, je viens de faire une grande sortie de zone dans ma vie professionnelle. » Je dis, « Ah ouais, c'est quoi? » Elle dit, « Ben, moi, comme tu vois, je suis médecin en clinique privée, là, mais à l'époque, j'étais urgentologue dans l'est du Québec, dans des régions éloignées. » À chaque matin, je prenais l'avion pour faire des petits villages du Québec et j'avais un horaire de fou. Là. Je pouvais travailler 24 heures sur 24, surtout dans les urgences. Donc, toujours sur l'adrénaline. Et elle me dit, à un moment donné, j'ai développé des gros maux de ventre. Elle me dit, là, c'est une médecin qui parle. Elle me dit, je suis allée chez une autre médecin pour mon mot de ventre. Et là, l'autre médecin, elle me dit, elle me raconte que l'autre médecin lui a prescrit des pilules pour les maux de ventre. Et là, ça n'allait pas bien du tout. Après quelques semaines de pilules de maux de ventre, ça n'allait pas bien du tout. Elle dit, je suis retourné la voir. Je lui ai dit, écoute, tes pilules, ça ne marche pas bien. C'est de pire en pire. Elle dit, OK, on va augmenter la dose. Elle dit, non. OK, non, c'est fini, on arrête. Je vais essayer quelque chose. On va arrêter les pilules tout de suite. Là. Tu n'augmenteras pas ma dose. Ce que je vais faire, là, je vais faire un changement de vie. Je vais faire un changement de carrière. Et on verra ensuite si j'ai encore besoin de pilules. Là, elle me dit, comme tu peux voir, je ne suis plus urgentologue dans l'Est du Québec. Je suis ici en clinique privée avec toi. Et 4 semaines après que j'ai fait ma sortie de zone, les maux de ventre ont complètement disparu. Et elle me dit, je n'ai plus jamais eu mal au ventre depuis ce jour. Et elle me dit, ce qui me flabbergaste le plus, ce qui me surprend le plus, qui me frappe le plus, c'est lorsque je suis retourné voir la médecin pour lui dire, écoute, j'ai plus mal au ventre, je suis guéri, c'est fini. Elle n'a jamais voulu savoir comment j'avais fait. Elle s'en foutait complètement. Ouais. J'avais détruit sa théorie des pilules.
Ouais.
Je venais de détruire son ego, ouais. Ses connaissances de pilules.
Ouais.
Là, c'est une médecin qui me parle d'une autre médecin.
Ouais, il y a des médecins qui ne comprennent pas tout
non,
ça.
Mais t'imagines?
Ah, mais ça ne m'étonne pas.
C'est spectaculaire. Ouais. Donc, c'est pas de l'ésotérisme, là. C'est pas de la croyance, ouais. On s'en fout.
Ouais. Il y a un moment où il faut s'ouvrir.
Quand on ne fait pas ce qu'on doit faire, on développe des mots physiques. Ça ne prend pas 8 doctorats en psychologie puis en médecine pour faire des petits liens.
C'est ça.
Donc, c'est ça. Écoutez-vous un petit peu plus.
Oui, c'est ça. Et dans tes sorties de zone, il y a quelque chose, moi, qui m'a frappé, c'est que tu as eu du culot. Je pense notamment à ta première sortie de zone quand tu es partie en concert, en tournée, où tu ne parlais pas anglais, tu ne jouais pas de guitare. Est-ce que tu peux nous raconter cette histoire?
Oui, quand tu dis du culot, c'est souvent de l'audace, pas de l'insouciance. Ça prend beaucoup d'insouciance, de culot, ouais. De l'audace, du courage. Parfois, on me dit, t'es très courageux. Oui, mais ça prend de l'insouciance. Faut pas être rationnel. Analytique.
Go, quoi. J'ai envie, j'y vais, j'ai rien à perdre.
Exactement, j'ai rien à perdre. Au pire, je vais avoir de l'air con et c'est tout. Écoute, moi, à l'époque, j'avais un fantasme, un rêve, là, c'était de faire une tournée de musique dans le monde, comme des bands rock. Moi, mon band préféré à l'époque, c'était Bon Jovi. Et moi, je voulais être Bon Jovi et faire des spectacles devant des milliers de personnes, faire des tournées mondiales. Moi, je trouvais ça fantastique.
Donc, t'avais quel âge à ce moment-là?
20 ans environ. Moi, j'aurais payé pour faire ça comme travail. Mm. Non, lui, il est archi-millionnaire, c'est son travail. Pour moi, c'était surréel, c'était trop beau pour être vrai. Et là, je me souvenais d'un groupe américain qui s'appelle Up With People, qui existe depuis 50 ans. C'est un gros groupe là, de 150 jeunes qui font des tournées mondiales à chaque année dans plusieurs pays. Et je me souvenais que ce groupe américain engageait les jeunes basés uniquement sur leur personnalité et non sur leur talent en chanson, en musique, en danse, parce qu'ils savaient que sur le lot, à chaque année, il y avait des gens qui étaient bons dans tout. À chaque année, ils réussissaient à monter le spectacle et partir en tournée mondiale.
Chaque année, c'était des jeunes différents?
Oui, exact. 150 jeunes à chaque année différents. Et je me suis dit, waouh, c'est ça. Moi, c'est la seule et unique chance que j'ai dans la vie de faire une tournée de musique dans le monde parce que je n'ai aucun talent musical, mais j'ai peut-être une personnalité. Donc, je vais aller vérifier. J'ai passé une entrevue et finalement, ils m'ont accepté. Écoute, je ne jouais pas de guitare. J'ai fait croire que je jouais de la guitare. C'était pas vrai. Ils m'ont accepté. Ils m'ont dit, apporte ta guitare cet été. Mais j'avais 7 mois pour me pratiquer. Pendant 7 mois, je me suis pratiqué à la guitare pour finalement avoir un des 3 rôles principaux de tout le spectacle. Je parlais même pas anglais. J'ai animé tout le spectacle en anglais pendant une année dans 10 pays, 150 spectacles, jusqu'à Helsinki en Finlande, tous les États-Unis, le Canada, l'Europe. Un truc de fou. Là. J'avais été invité chez Bill Clinton. J'ai fait des stades. J'ai fait un discours au Parlement européen à Strasbourg à l'époque. Des trucs que j'aurais jamais pensé vivre de ma vie, mais j'ai marché vers du fou.
Et t'as pas voulu continuer, parce que justement, après, t'as repris tes études?
Non, exact. Moi, mon fantasme, mon rêve, ma bulle, moi, mes bulles, je les éclate au fur et à mesure. Donc, mon fantasme de faire une tournée de musique dans le monde,
tu l'as fait.
Quand je suis revenu après une année, je l'avais fait.
OK.
Je ne sentais pas que je voulais faire ça le reste de ma vie, mais j'aurais pu sentir vouloir faire ça le reste de ma vie. Mais ça, c'est pas toi qui décides. Tu le sens, tu le sens, tu le sens pas, là. Moi, c'était pas ça. Ma bulle, c'était faite. Je voulais pas devenir un musicien, faire de la scène le reste de ma vie. Pas du tout. Moi, ma nouvelle bulle, c'était d'être producteur, promoteur de vedettes. C'était d'être arrière-scène, promoteur et producteur. Je voulais pas être l'artiste dans les lumières. Et finalement, je suis devenu producteur, promoteur, donc 5 années comme producteur de disques à Montréal, de grande vedette de la chanson québécoise, et 12 années comme promoteur de grandes vedettes internationales de passage à Québec. J'avais ma société de 12 salariés environ à temps plein qui faisait la promotion, surtout des attachés de presse, de Céline Dion, toutes les grandes vedettes. Donc, ça, c'est ça. C'était mon évolution.
Quand, dans ton évolution, t'es partie, t'as quand même déménagé. Enfin, je repense à l'histoire où quand tu t'habitais au Québec, tu t'es rendu compte qu'en fait, pour travailler dans la musique, il fallait être à Montréal.
Absolument.
Parce que c'était pas possible.
Absolument.
T'es partie avec ton oreiller, ta couette.
Oui, ça, c'était fou. Ça, c'était fou.
Sans savoir où t'allais dormir et sans savoir ce que t'allais faire. Et là, donc, t'étais déjà avec ta femme à ce moment-là?
Oui, absolument. Écoute-moi, j'étais à Québec et mon rêve, moi, j'avais une idole à l'époque. Là. Quand je suis revenu de ma tournée mondiale, mon idole, c'était un producteur de spectacle, le producteur le plus connu au Canada à l'époque, Donald K. Donald, qui s'appelait. Et lui, il produisait toutes les grandes vedettes internationales, les Rolling Stones, puis Madonna, U2, toutes les grandes vedettes, même Céline Dion. La tournée mondiale, c'était mon idole de Montréal au Québec qui produisait la tournée mondiale. Et c'était mon idole, mais moi, j'étais à Québec. Et Québec, c'est beaucoup plus petit que Montréal. Mm-hmm. C'est 4-5 fois plus petit que Montréal. Puis moi, c'est une grande ville. À l'époque, pour moi, Montréal, c'était très intimidant. C'est une grande ville. Et je résistais. Donc, je voulais rester dans ma fosse, dans ce qui était facile à Québec. Pour moi, c'était connu, Québec. Donc, c'était facile. Il n'y avait pas de stress, pas de changement. Mais mon rêve était à Montréal. Et j'ai résisté longtemps. Je souffrais. J'essayais de résister.
Là, du coup, tu faisais tes études?
J'avais fini.
Tu avais commencé un job? Tu avais commencé un job ou pas encore?
Des petits boulots.
D'accord.
Mais mon rêve, je ne marchais pas du tout vers la bonne place parce que mon rêve était à Montréal. Et à un moment donné, ma femme, elle me dit, encore que je joue aujourd'hui, elle me dit, un soir, elle savait c'était quoi mon rêve, que c'était travailler à Montréal pour mon idole. Mais j'avais peur de Montréal. J'avais plein de bonnes excuses et de défaites de ne pas aller là. Pour moi, c'était une grosse
C'était
ville.
Quoi les excuses?
C'est gros, c'est laid, ça pue, il y a du trafic et je peux me faire attaquer. Je te résume ça vite, là, mais c'était pas vrai, c'était des excuses et des défaites. Mm-hmm. Juste, j'avais peur, c'était de l'inconnu. Et elle me dit, je pense que ça serait le temps que tu déménages à Montréal. Elle me dit ça un jeudi soir, parce que ça savait c'était quoi mon rêve. Et là, quand elle a dit ça, là, moi, à l'intérieur de moi, ça a vibré tout de suite.
Vous viviez ensemble?
Non, pas encore. On habitait chacun chez nos parents. Et ça a vibré très fort. Et quand ça vibre très fort, maintenant, je l'assume. J'ai toujours assumé, quand je le sens, là, que j'ai plus le choix, je saute. Je saute. Quand je dis je saute, là, je marche tout de suite dans cette direction-là. Le lendemain matin qu'elle me dit ça, là, j'ai pris ma vieille voiture, je suis déménagé à Montréal. Mais quand je dis déménager, là, j'avais mon ordinateur, quelques vêtements et mon oreiller. Je suis arrivé à Montréal, j'avais aucune idée où j'allais dormir le soir même. C'est comme si tu passes de, je sais pas moi, de Bordeaux à Paris ou d'un petit village là, à Paris. Là. T'arrives à Paris dans ta voiture, puis dans ta tête, t'es déménagé à Paris. Là. Moi, j'avais aucune idée, je connaissais personne à Paris, là, mais Montréal. Là. Et j'ai appelé la seule connaissance et m'a trouvé un... J'ai dormi chez deux gars que je connaissais pas du tout, en arrière d'un canapé, dans un salon. Et je me suis retrouvé à travailler chez un constructeur d'avions pour payer le loyer. Et j'ai travaillé quelques semaines. Là, j'étais découragé, j'étais déprimé. Je me demandais pourquoi j'avais fait ça.
Parce et là, que moi, du coup, tes parents, tes amis...
Ils ne comprenaient pas trop.
Non,
ils ne comprenaient pas. Là.
Tu leur en parlais pour avoir un feedback?
Non,
ou
pas vraiment.
T'étais plutôt
non,
dans
non,
ta bulle?
Non, enfin... moi, je ne pose pas trop la question aux gens. Non, ça, j'ai appris à faire et ensuite te dire ce que j'ai fait. Je veux pas
ça a toujours été comme ça?
Oui, je veux pas savoir ton opinion.
D'accord.
Je sais ce que j'ai à faire. Mm-hmm. À part ma conjointe.
D'accord.
Ouais, je pense que c'est la seule personne qui doit vraiment embarquer dans mes trucs de fou. Là. Mais c'est pour ça que je suis encore avec la même femme.
C'est déjà
Parce
arrivé?
Parce que sinon, que si je m'étais battu à chaque fois avec ma femme, j'aurais eu un choix à faire.
Ouais.
Moi ou le couple.
Et c'est déjà arrivé que vous ayez des accords, des moments...
Des désaccords, non.
Non.
C'est pour ça que je te dis que je suis encore avec elle aujourd'hui. On est pareil. On ressentait le même truc, la
D'accord.
même chose. Même si elle était prof au lycée toute sa vie.
Ouais.
Mais elle a vécu des sorties de zone de Québec à Montréal, de Montréal à Québec, ta.
Et puis même là, j'imagine... Tes enfants, ils sont quel âge maintenant?
20 ans, 18 et 16.
D'accord.
Ça, c'est trois autres grandes sorties de zone aussi. Ça en est d'autres. Mais c'est ça. Donc, il y a le conjoint ou la conjointe doit... C'est la seule personne.
D'accord.
Les amis, on s'en fout. Les parents, on s'en fout. On s'en fout. Ils n'ont aucune idée de ce qu'on sent, qu'on doit faire. Là. Et de toute façon, souvent, lorsqu'on marche vers du fou dans nos propres vies... Là, lorsqu'on marche vers ce qui crée beaucoup de joie, d'enthousiasme et de feu d'artifice dans notre tête, à la limite, même nous, on ne comprend pas.
Mm-hmm.
On ne comprend pas même pourquoi on sent ça. Là. Pourquoi ça crée tant de joie et d'enthousiasme? Pourquoi? Ben, on s'en fout du pourquoi. Là.
On y va.
C'est ça? Go. Fais-le. Mm-hmm. Pourquoi tu aimes le mauve ou le jaune ou le bleu? On s'en fout. Pourquoi? Fais-le. Assure-toi du bleu, jaune, du bleu, du mauve.
C'est apprendre à se faire confiance aussi.
Oui, Puis, ça, c'est un autre truc, la confiance. J'ai appris que c'est une grosse erreur d'attendre d'avoir confiance en quelque chose pour faire le truc que tu dois faire, que tu sens que tu dois faire. Parce que là, c'est le contraire. La confiance se bâtit au fur et à mesure que tu le fais. Et au début, c'est difficile. Au début, tu n'as pas confiance. Tu es stressé, tu es angoissé, tu n'as pas confiance. J'ai jamais eu confiance en rien. Mais à force de le faire, là, la confiance se bâtissait. Au fur et à mesure que je devenais de moins en moins mauvais, que je souffrais de moins en moins quand j'étais en sortie de zone, à un moment donné, j'atteignais un point de bascule où là, ça se passait. Là, j'avais confiance. Là, je l'avais tellement fait que ça devenait intégré, comme jouer de la guitare, animer en anglais ou peu importe, de faire des conférences. Mm-hmm. Plus tu le fais, plus ça devient intégré, tu n'y penses plus, tu deviens très confortable, donc très confiant dans quelque chose de complètement nouveau. Mais à chaque fois, moi, j'en ai fait des sorties de zone, mais à chaque fois, je n'avais pas confiance. Au début, c'était difficile. Je pensais abandonner. Je pensais que je n'étais pas fait pour ça. Mais quand tu marches dans la bonne... Ça, je le sais maintenant, ce n'est qu'une période transitoire. C'est ça, une sortie de zone. C'est toujours la même chose. Tu le sens. Tu ne comprends rien. Tu as très peur. Tu le fais, même si tu as peur. Puis dès que tu le fais, c'est difficile. C'est difficile de moins en moins, plus tu le fais. Tu souffres de moins en moins plus tu le fais. Et à un moment donné, point de bascule, c'est là que ça se passe. Mais ça, c'est à tous les niveaux.
Et petite échelle moyenne. Tu sais pas forcément où tu vas.
Pardon?
Tu ne sais pas forcément où tu vas.
Ben, d'habitude, je ne sais jamais où je vais. Pour de vrai, si je suis aujourd'hui ici avec toi, là, si je recule en arrière avec le recul, à chaque fois, je n'avais aucune idée. Moi, je ne me suis pas dit un jour, je vais faire des conférences à Paris. Quand j'étais producteur de disques, je n'ai jamais pensé à ça.
Tu rêvais pas de faire une interview de là comme ça aujourd'hui?
Non, mais je n'avais jamais rêvé à ça de ma vie. Je ne pouvais pas faire de visualisation. Je ne savais pas que ça se pouvait. Je ne savais même pas que je ferais un jour des conférences. Je ne savais même pas que je savais écrire. Je ne savais pas que j'écrirais un jour un livre. Le chemin se présente au fur et à mesure. C'est impossible de prédire l'avenir. Je l'ai prouvé 1000 fois. J'aurais été le pire des cons à essayer de prédire ça. C'est au fur et à mesure. Donc, on se complique beaucoup la vie en essayant de voir trop loin. C'est bien d'avoir des rêves, mais pas trop loin. Tout de suite, qu'est-ce qui t'allume?
Oui, parce que de toute façon, ce que tu disais, c'est que de toute façon, les rêves, aujourd'hui, donc tu avais le rêve d'aller travailler chez Taka.
J'ai eu le rêve de partir en tournée mondiale, je l'ai fait. J'ai eu le rêve de travailler pour Mondial, je l'ai fait. J'ai eu le rêve de revenir vivre dans ma ville parce que je suis tombé en amour avec une maison, je l'ai fait. Alors que j'avais aucune bonne raison rationnelle de revenir vivre à Québec. Ça, c'est une autre grande sortie de zone que j'ai fait. Écoute, on était à Montréal, Québec.
Juste avant qu'on parte sur Montréal, parce que bon, moi, j'ai eu la chance de lire ton livre la semaine dernière. Donc, du coup, tu travailles chez Bombardier, Canadair,
Canadair, Bombardier, constructeur d'avions.
Et là, tu te dis, en fait, j'ai vraiment envie d'aller travailler pour mon idole.
Oui.
Et tu te donnes le moyen d'y arriver.
Quand je suis déménagé à Montréal, c'était pour travailler avec mon idole. Mm-hmm. Mais je devais payer le loyer. Donc, j'ai travaillé chez Bombardier, mais je n'avais aucune passion pour les avions. Là, je m'en foutais des avions. Et à chaque jour, j'avais 2 fois 15 minutes pour aller au téléphone puis me trouver pour travailler pour mon idole. Ou après ça, parce qu'au début, il m'a dit non. Donc, après, j'appliquais partout. Producteur de disques, de spectacles. Tout le monde me disait non. Donc, à un moment donné, j'ai rappelé chez mon idole. Parce que c'était ça mon but, je me suis rappelé mon but, c'est quoi qui crée beaucoup de la joie, de l'enthousiasme. J'ai rappelé et j'ai dit, écoutez, je vais travailler gratuit, là. On s'en fout, là. Je ne veux pas un stage, je ne veux pas un stage. Donnez-moi n'importe quel petit boulot, là, tout ce qu'il y a à faire que personne ne veut faire, que les employés ne font pas, moi je vais le faire. Gratuit, ça durera le temps que ça dure. Vous n'avez rien à perdre, si ça ne fonctionne pas, vous me foutez à la porte 30 secondes après, je disparais. Il n'y a pas de rapport de stage à faire, rien à faire. Est-ce que vous voulez? Il n'y avait aucune bonne raison de me dire non, là, parce que c'est un travailleur salarié gratuit. Personne ne refuse de l'aide gratuite. Donc, finalement, j'ai travaillé là et j'étais tellement en feu. Moi, j'étais au paradis là, de travailler gratuitement pour mon idole. Moi, j'étais au paradis. J'avais atteint le sommet du show business dans ma tête mondiale. Et j'étais tellement en feu, passionné dans la bonne rivière. Je faisais tellement ce que je devais faire que... tu crées ta chance. Ils ne voulaient pas que je quitte et que j'aille travailler ailleurs chez un compétiteur. Donc, ils m'ont débloqué un poste, créé un poste pour moi. Donc, finalement, c'est comme ça que j'ai débuté. Ouais. Et la compagnie a explosé. On a eu plusieurs grandes vedettes qu'on a produites. Et j'ai gravi les échelons de plus en plus de responsabilités. Donc, j'ai eu plusieurs belles années dans le domaine. Mais c'est comme ça que j'ai commencé. Mais ça, je le dis dans les écoles où les jeunes, peu importe ce que tu veux faire, peu importe, non? Marche tout de suite vers là. Mm-hmm. S'il faut, si personne ne veut t'engager ou il n'y a pas d'argent ou quoi que ce soit, là, gratuit, gratuit. Donne, donne. Tu vas te créer de l'expérience, mm-hmm. tu vas te créer des contacts. Ce n'est que tu n'as pas le choix, là. C'est comme ça. Tant mieux si tu es payé puis tu es chanceux d'avoir un poste tout de suite au paradis. Mais sinon, fais ça gratuit. Personne ne refuse de l'aide gratuite. Deviens bénévole, aide à des événements, peu importe c'est quoi. Allez faire le ménage. Va faire le ménage gratuit. Passez le balai. Tu vas rencontrer les gens du domaine, tu vas te faire des contacts. Ils vont te découvrir, ils vont voir, tu vas pouvoir poser des questions. C'est pas si compliqué que ça. Là. Mais si tu es vraiment motivé, il faut que tu sois en feu. Faut que ça crée beaucoup de joie, d'enthousiasme et de feu d'artifice dans ta tête. Oui. Ça, c'est le point de départ. Mm. Mais si ça crée ça, c'est sûr que tu vas te rendre. Si tu marches vers là.
Je pense que c'est un point qui est très important, c'est que sur l'argent, c'est que dans tout ton parcours, tu dis finalement à chaque fois, j'ai pas fait les choses par rapport à l'argent.
Jamais.
Et bon, finalement, aujourd'hui, tu as ce qu'il faut pour vivre. Et je pense que c'est un point qui est très important parce que souvent, enfin, moi, j'ai rencontré un jeune qui avait 18 ans et je lui ai dit, tu veux faire quoi dans la vie? Il m'a dit ingénieur ou je ne sais plus quelle réponse c'était, mais ce qui m'a le plus frappé, il m'a dit, en fait, je veux faire ça parce que c'est un métier où on gagne beaucoup d'argent. Et je me suis dit, mais mon Dieu, mais en fait, tu peux pas être... Enfin, oui, évidemment, tu es toujours content de gagner de l'argent, mais finalement, il y a un moment... Enfin, moi, je sais que dans ma vie, il y a des moments où je me suis dit, je suis plus heureuse dans mon boulot. Si j'arrive à trouver un job où je suis moins bien payée, mais en fait, je serais heureuse de faire ce job-là, eh ben j'accepte. Bon, la chance que j'ai eue, c'est qu'au final, j'arrivais toujours à gagner mon niveau de salaire. Mais en fait, là, aujourd'hui, bon, bah, je sais pas de quoi sera fait mon avenir, mais j'ai envie de dire, l'argent, ça doit être en effet clairement secondaire.
Absolument, je sais que c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Mais si on veut vraiment beaucoup, de toute façon, si tu t'éteins complètement dans ce que tu fais, tu vas voir que ça va te coûter très cher. En pilule, en burn-out, en dépression, en arrêt de travail, c'est pas mieux, c'est pas plus payant, là, ce rendre-là. Mais quelqu'un qui fait un travail pour l'argent, pour moi, c'est d'une tristesse monumentale. Là. C'est passer à côté de sa vie, c'est très triste. Je ne sais pas comment le dire. Là. C'est extrêmement triste. Si, tant mieux si tu fais beaucoup d'argent. Oui, absolument. Il faut vivre dans la vie. Là. Je comprends tout ça. Il faut payer le loyer, l'épicerie. Ça, je comprends ça. Mais il y a des façons. Il y a des trucs. S'il y a quelque chose qui t'allume, là, bien, premièrement, si ça t'allume, tu vas travailler beaucoup plus. Tu vas avoir beaucoup plus de succès, là, c'est sûr, parce que ça t'allume. Tu en donnes 1000 fois plus que le client demande, parce que tellement ça t'allume. En partant, tu vas avoir beaucoup plus de clients ou tes patrons vont t'aimer beaucoup plus ou tu vas obtenir du succès dans ce domaine-là, c'est sûr, parce que ça te passionne. Par exemple, moi, maintenant, si j'étais milliardaire, puis parfois je l'ai dit en conférence, hein, si j'étais milliardaire, qu'est-ce que je ferais au lieu d'être ici? Là? Ben, je serais ici, quand même. Si j'étais milliardaire, là, je paierais pour faire mon travail, là, parce que j'aime ça, là, être ici, là. J'aime ça être en entrevue avec toi parce que mon sujet me passionne. Si je parlais d'un sujet qui ne m'intéresse pas du tout, là, ouf, ça serait lourd. Hein. Je veux dire, je ne payerais pas pour faire ça. Puis milliardaire, je ne ferais pas ça. Là. Mais moi, maintenant, ça m'allume, ça me passionne, j'aime ça. Donc, je travaille beaucoup, beaucoup. Mais ça, c'est bizarre parce que depuis que je fais ma dernière carrière de auteur conférencier, ma femme me dit « je t'ai jamais vu autant travailler ». Moi, c'est bizarre parce que quand elle me dit ça, là, moi, dans ma tête, je n'ai jamais aussi peu travaillé de ma vie. Et souvent, les gens me disent, posent la question, c'est quand tu prends tes vacances? Je me pose plus cette question, je m'en fous. Je m'en fous complètement des vacances.
T'es bien.
Et je sais pas quoi, pour de vrai, je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas quoi répondre parce que j'ai l'impression d'être toujours en vacances, mais de travailler toujours quand même. Donc, je sais pas quoi répondre. Je pense pas à ça. Moi, faire des conférences en France ou peu importe, c'est pas vraiment un travail. Je serais milliardaire, je serais ici. Mais je suis payé. Là, je suis payé, je veux dire, je fais de l'argent. Je parle d'un sujet qui m'intéresse, je change des vies. Moi, c'est ma vraie paye, c'est ça. Moi, c'est le résultat. Là. C'est les transformations que je provoque et j'en vois. Des milliers, là, c'est spectaculaire. Même moi, je suis impressionné, je comprends pas trop, là, mais ça transforme des vies, des trucs de fou. Là. J'ai des témoignages... presque à chaque jour d'histoire rocambolesque, de changement de vie. Mais moi, c'est ma vraie paye. Parce que je me suis déjà posé la question il n'y a pas très longtemps. Parce que j'ai beaucoup d'humour dans ce que je fais, dans la conférence. Et là, je me suis dit, mais peut-être que c'est ça. Est-ce que j'aimerais devenir humoriste? Juste faire des blagues. Être sur la scène, faire des blagues pour faire des blagues. Et en 2 secondes, je me suis répondu assez vite là, que j'ai aucun intérêt. Là, je m'en fous. Je veux pas devenir. Mon but, c'est pas de faire de la scène et de parler devant des gens. C'est pas ça mon plaisir. Je veux pas devenir une vedette. C'est pas du tout ça mon but. Moi, ma vraie peine, c'est après la conférence. C'est une fois que je sors de scène. Mon but, c'est pas d'être sur la scène. Mon plaisir, c'est pas ça. C'est après de voir dans les yeux des gens, puis les témoignages, ce que ça a provoqué. Que je le vois dans leurs yeux, ce que ça a provoqué. Parce que j'ai des histoires à chaque jour de gens qui m'ont vu il y a un mois, un an, deux ans, trois ans, puis ça a transformé leur vie. Puis là, je vois les résultats. Ils me racontent leurs résultats là, de transformation. Mais ça, c'est fou. Quand tu reçois des témoignages comme ça, tu te dis,
la plus belle des récompenses.
Peut-être que ça n'avait jamais croisé mon chemin, cette personne-là n'aurait jamais fait ça. Tu te dis, j'ai peut-être quelque chose à voir là-dedans, mais ça, c'est cool.
Ouais.
Ça, c'est ma vraie paye maintenant.
C'est chouette. Et donc, du coup, après TACA, tu es rentré à Québec parce que tu as eu un coup de foudre pour une maison.
Oui.
Ce qui est quand même fou.
Oui, ça, c'est très fou. Ça, c'est une de mes plus grandes sorties de zone à vie. J'étais producteur de disques à Montréal. Mais je m'éteignais. Là. À l'époque, j'avais 28 ans que je commençais à faire de l'asthme. Et il y a eu un élément déclencheur. À un moment donné, une fin de semaine, à chaque mois, on revenait à Québec pour visiter nos parents. Mmh. Parce que moi et ma femme, on vient les deux de Québec et nos familles étaient à Québec. Et je lui ai dit, écoute, là, ça faisait 2 ans qu'on regardait projeter une maison à Montréal, dans la région de Montréal. Et pendant 2 ans, aucun coup de foudre. Il n'y a rien qui nous allumait comme maison. Jamais, jamais, jamais. Il y avait toujours un problème quelconque. Et à un moment donné, je lui dis, en fin de semaine, en allant visiter nos parents, on va aller visiter des maisons juste pour la curiosité. On fait semblant qu'on veut acheter des maisons, mais c'est pas vrai. On appelle une agente d'immeuble, on va voir des maisons à Québec, comparer les prix Québec et Montréal. On appelle une agente d'immeuble, elle nous prévoit 5 maisons dans la journée. On rentre dans la première maison. On avait un bébé de 6 mois dans les bras, là. On rentre dans la première maison. Et je te jure, on a eu un coup de foudre. Moi et ma femme, on savait que ça, c'était notre maison. Parce que ça, c'était fou. C'est ça qu'on cherchait depuis 2 ans à Montréal et qu'on ne trouvait jamais. Ah,
vous aviez eu le temps de mûrir ce que vous vouliez comme type de maison.
Mais ça, là, pour moi, la maison, c'était fou. Je ne pouvais pas croire que quelqu'un habitait là, là. Parce que moi, c'était ça que je cherchais. C'était fou. Là. Et quand je te dis que je marche vite vers là, quand je le sens, le jour même, on a fait une offre d'achat sur la maison.
Sachant que vous aviez encore un job à Montréal.
On n'avait jamais pensé revenir vivre à Québec. Ça n'a même pas traversé notre esprit. Mais on a senti que c'était notre maison. On l'a acheté le jour même. L'offre a été acceptée le jour même parce qu'on était prêt à rentrer dans la maison dans 30 jours. 30 jours après, on était revenu vivre à Québec, dans la maison. Un bébé de 6 mois, les deux, plus de boulot.
Sachant que vous n'aviez pas le droit au chômage.
Oui, exact. Pas d'industrie du disque à Québec.
Ouais.
Là, ma femme avait son poste de permanente à Montréal, devait recommencer à zéro, retrouver un poste de permanente comme suppléante.
C'est un truc qui est très compliqué.
Très difficile. Et ça fait 20 ans là, de ça. Là. Et est-ce que tu sais, c'est quand il a retrouvé sa permanence?
Ah non, ça je ne sais pas.
Cette année.
Ah oui.
20 ans plus tard. Ouais. On s'en fout. Elle a travaillé à temps plein, c'est un détail. 20 ans plus tard. Mais à l'époque, elle l'avait à Montréal.
Ouais.
On achetait une maison, on recommençait tout ça. Les deux à zéro, avec toutes les bonnes raisons rationnelles pour ne pas faire ça, on les avait toutes.
Le chômage, pas de chômage,
avec un
justement,
bébé,
un bébé.
Quitte 2 emplois, achète une maison, tout le contraire de ce qu'il fallait faire, tout le contraire. Et si on avait été rationnel, cérébral, donc on avait fait une liste du pour et du contre.
Et si vous en aviez parlé aussi accessoirement à votre entourage?
ça c'était fou. Là. Même nous, on ne comprenait pas, tu le sens, non, c'est tout. Là. Et si on avait fait une liste du pour et du contre, on n'avait que du contre dans la liste.
Ouais.
Et un pour. Le pour, c'était « je le sens ». C'est tout. Donc, si on avait été intelligent, rationnel, cérébral, analytique...
Je
ne
sais pas si
vous
êtes intelligent.
Jamais, jamais on n'aurait fait ça. Ben, regarde la liste du pour et du contre. C'est assez évident que tu ne dois pas faire ça. C'est facile à voir. Mais nous, on le fait. Et ça, c'est je sais ce qui est arrivé. Ça fait 20 ans que j'habite dans la maison. Je suis revenu vivre. Ça fait 20 ans que j'habite à Québec. Je sais exactement ce qui est arrivé après. Et c'est une de mes meilleures décisions à vie. Financière, personnelle, professionnelle, à tous les niveaux. J'habite encore dans la maison et je suis encore très, très, très heureux d'habiter là. Donc, je l'ai prouvé plusieurs fois que lorsqu'on marche vers ça, ce qu'on sent qui crée du fou, de l'enthousiasme et de la joie, on ne peut pas prévoir ce qui va arriver, mais c'est par là qu'il faut marcher. Je ne peux pas être plus convaincu que ça. Là.
Et donc, la sortie de zone, quand tu as quitté, du coup, quand tu as revendu tes parts de ton agence de com à ton ancienne associée, là, tu avais tes enfants qui étaient plus grands.
Oui.
Comment ils
j'avais trois enfants.
Ouais. Comment ils ont réagi
Écoute, ça a été un de mes plus grands blocages. Dans ma dernière grande sortie de zone, mon plus grand blocage, c'était ma grande fille, qui était rendue adolescente. Là. Qui m'avait vu toute sa vie travailler dans ma société de communication avec des salariés. Elle venait au bureau jouer à la secrétaire avec les salariés. Et là, elle a eu très peur. très insécure. Elle pensait qu'on allait devenir pauvre. Papa n'a plus de salarié, il n'y a plus de travail, il n'y a plus de boulot. On va se retrouver à la rue. Elle avait très peur. Puis pendant plusieurs mois, pendant longtemps, on ne pouvait pas se payer les mêmes trucs. Mm. Aller en voyage aussi souvent, peu importe. Puis toujours elle nous rappelait, elle me rappelait que si je n'avais pas quitté, ben on pourrait se payer hein, les voyages, ouais, les trucs.
La bonne culpabilité.
Elle était fâchée. Ouais. Mais ça, il faut être très solide dans sa tête.
Ah, c'est clair.
Pour marcher, continuer à marcher, parce que moi, non, j'avais aucune idée ce qu'allait arriver. Non?
Ouais.
Mais je sentais que je marchais dans la bonne...
Oui, surtout que tu savais
pas où tu allais. J'avais aucune idée. Et là, j'ai eu ma bulle d'écrire mon livre, mon sujet, sortie de zone. Mais ça prend du temps, c'est long. Mm. Tu peux abandonner 1000 fois entre les deux. Non? Maintenant, ma grande fille qui est rendue à 20 ans voit exactement ce qui est arrivé. Non? Et là, elle m'accompagne en conférence dans le monde. Elle vient avec moi à l'île de la Réunion en mars. Mm. Là, elle comprend exactement. C'est la plus belle leçon qu'elle a eue dans la vie. Non?
Ah ben, c'est une belle chance que tu l'as
Le changement, fait, la sortie de zone, c'est la plus belle leçon. Mm. Mais j'aurais eu 1000 occasions de revenir en arrière à l'époque, quand elle me rappelait à chaque fois qu'on ne pouvait plus payer les mêmes trucs et que c'était de ma faute.
Moi, ce que je disais à mes enfants quand j'ai arrêté de travailler là cet été, je lui ai dit à mes enfants, écoutez, maman, elle va gagner moins d'argent, mais maman, elle sera heureuse. Donc, qu'est-ce que vous préférez, continuer à partir en vacances ou avoir une maman heureuse?
Ça me fait penser qu'à un moment donné, à une certaine époque, ça allait mieux. Monsieur, ma fille m'avait dit, on était à la pharmacie, je me souviens, comme c'était, elle était assise à côté de moi, puis elle m'a dit, je ne m'ennuie pas de l'époque où tu étais sérieux.
Ouais, mais c'est...
Sérieux.
Ouais.
Dans les dents, bang!
C'est un truc vachement intéressant. Enfin, mon mari, il a fait un truc hyper violent, mais je le remercie aujourd'hui. C'est qu'avant que je m'arrête, il a regardé les enfants qui à l'époque avaient 5 et 7. Il les a regardés, il a dit, vous la trouvez comment, maman, en ce moment? Et là, je me suis pris de... Elle crie tout le temps, elle est stressée. Un truc, enfin, tu prends ça en pleine figure, c'est dur, quoi, dans ton petit cœur de maman. Et il a reposé la question il y a un mois, un truc comme ça. Ah, oh, maman, elle fait des blagues tout le temps. Et tu dis, mais mon Dieu, enfin, je pense que, enfin, pour les gens qui sentent qu'ils sont pas bien, ou s'ils ont un doute en tout cas, qui posent la question à leurs enfants et ils vont se prendre un miroir.
Ouais, absolument. Ouais, absolument. C'est vrai ce qu'ils disent. Hein. Ils disent ce qu'ils pensent. Ils disent ce qu'ils voient.
Et puis il n'y a pas de filtre.
Ouais. c'est fou, hein, mais c'est tout ce qu'on peut voir.
Ouais.
On ne peut pas sentir ce que l'autre sent, mais on peut voir dans les yeux de l'étincelle, de la joie, de l'enthousiasme, ou quelqu'un qui s'éteint, qui chiale, qui râle, qui pleurniche, qui est stressé. C'est tout ce qu'on peut voir.
Qui est impatient.
De la joie ou de la tristesse, un des deux. Ouais. C'est ça. C'est facile à dire, mais c'est ça. C'est comme ça pour tout le monde. Donc, croire que, pour ceux qui écoutent peut-être, que ça va pas bien, que c'est difficile. Mm. Ils sont stressés, angoissés, ils ont peur, ça va mal, peu importe c'est quoi. Là. Vous êtes malheureux, vous restez au changement. Croire qu'il y a une autre vie. Il faut juste savoir qu'il y a une autre vie. Ce n'est pas un cul-de-sac.
Ouais.
Si vous décidez d'assumer autre chose ou d'ouvrir vos œillères, élargir vos horizons, vous pourriez être surpris. En tout cas, je le vois avec des milliers de personnes. Toi, tu es un exemple. Même si tu ne sais pas exactement encore ce que ça va te donner dans un an, deux ans, trois ans, quatre ans, on s'en fout. Là, toi, tu es directement dans le changement. Mais au moins, tu as retrouvé le sourire.
Ouais.
Déjà, c'est beaucoup.
Ah, ça change déjà
ça
le quotidien.
Ça va te coûter beaucoup moins cher en pilule.
Ouais. J'en ai pas pris, j'ai eu la chance.
Non, mais tu aurais pu résister au maximum, continuer à gagner ton salaire où tu travaillais, mais là, tu serais en burn-out, dépression, pilule, maladie. Ça coûte cher, ça aussi.
Et puis ça fait du mal à l'entourage aussi.
Il n'y a personne qui est heureux là, de ça. Ça ne va pas bien pour personne.
Non.
Non, c'est ça. Puis souvent, on se fait dire, c'est égoïste de faire des sorties de zone, des changements. Mm. Tu penses juste à toi. Ben oui, mais c'est parce que c'est sur le but. Tu n'as pas le choix. Là.
Ouais.
C'est quoi qui est plus intelligent? Un parent qui souffre toujours, qui se rend à la dépression, ou un parent qui prend le risque de marcher vers de la joie et de l'enthousiasme?
Et puis
qu'est-ce qui est plus intelligent?
Si t'es pas heureux, ton conjoint peut pas être heureux.
C'est un cul-de-sac. Ça mène à rien. Il y a rien d'intelligent là-dedans. Mais il y en a plein qui disent c'est égoïste. Ben oui, c'est égoïste. Mais c'est quoi les premières consignes en avion avant qu'un avion crache? C'est quoi la première consigne? C'est mets le masque à oxygène sur ton nez et ensuite mets-le à tes enfants.
C'est marrant pas le contraire, parce que j'ai pris l'avion, pas d'ailleurs, pour aller au Canada pendant les vacances. Et c'est marrant parce que j'ai écouté les consignes et je me suis fait je me suis arrêtée là-dessus. Je me suis dit, bah oui, mais en fait, il y a un moment.
Mais c'est égoïste, ça. Imagine, ton enfant est en train de mourir, et toi, tu vas te mettre le masque d'oxygène à toi avant, avant lui.
Mais sauf que si...
Ben, c'est ça, c'est ça le but.
Si tu tombes, tu ne pourras pas l'aider.
C'est pas plus intelligent, ouais. C'est complètement ridicule. Donc c'est c'est égoïste, mais tant mieux, c'est ça. C'est ça le but. C'est beaucoup plus intelligent d'être égoïste. On s'entend, là. Mais quand c'est une question de survie, là, de changement de vie, de sortie de zone, de ton ressenti, tu n'as pas le choix, là.
Ce que j'ai trouvé hyper intéressant aussi dans ton parcours, c'est qu'il y a à la fois la partie métier, enfin métier entre guillemets, là tu t'es créé ton propre métier, ce qui est génial, et puis aussi toute la partie dans tes loisirs où il y a des choses, ben, ce que tu disais, bon c'est entre guillemets loisirs quand tu as fait ta tournée, mais par exemple tu t'es dit tiens je vais faire c'est du motocross, ou un semi-marathon, tu n'avais jamais couru, enfin, que tu dis j'ai une micro-bulle mais même sur un truc qui n'a rien à voir avec sa vie professionnelle et tu y vas.
Absolument. Et ça, ça fait partie des plus beaux moments de ma vie. Là. Des défis sportifs que j'avais jamais fait. J'avais jamais fait de course de motocross de ma vie. Là. Je me suis inscrit dans une course. J'avais jamais fait de moto. On était 300 motos au départ. Une course de enduro sur plusieurs kilomètres. Et j'étais en arrière de tout le monde. Et j'étais le seul sur 300 à ne pas être habillé en motocross. Là. J'avais des vieilles culottes, un t-shirt. Pas du tout habillé en motocross. J'avais de l'air con. Là. Mais quand toutes les motos sont parties au départ, là, je pensais mourir. Là, c'est assez violent, un départ de course de motocross. Je pensais que j'allais mourir, mais finalement, j'ai fait la course. J'étais le dernier, je suis arrivé le dernier, mais je m'en foutais. Là, c'est un des plus beaux moments de ma vie. Moi, j'avais fait une course de motocross. J'avais juste survécu sans me blesser. Et j'ai pris goût, j'ai fait plusieurs courses ensuite de motocross. Mais ça, c'est un des plus beaux jours, je me souviens.
Tu fais toujours du motocross?
Plus maintenant, je l'ai vendu. Non, j'ai plus le temps. Ma bulle est passée.
D'accord.
Ouais, vois-tu, je l'ai fait quelques années et ça, c'est passé. C'est fini. Je ne pense pas en refaire non plus. Mais j'ai vécu mon fantasme de faire des courses de motocross. Mais je me souviens de ce jour-là. C'est un des plus beaux jours de ma vie parce que j'avais transcendé une immense peur. C'est ça que ça fait. Sortir de sa zone, ça veut juste dire transcender une peur et un inconfort. Et ça, ça crée beaucoup de fierté. Et c'est ça qui met du piquant dans la vie. C'est de ces moments-là dont on se souvient. Ce n'est pas quand c'était facile. Moi, je me souviens de ma première course, parce que je pensais mourir. Je ne me souviens pas des autres. Elles m'ont moins marqué. Mais c'est ça. C'est quand on sort de notre trou, de notre fosse, c'est ça qui met du piquant dans la vie. C'est quand on se dépasse. Des micro-déchirures de la tête, ce que j'appelle, comme un muscle. Un muscle qui devient gros et en santé dur, c'est des micro-déchirures du muscle. Et ça fait mal. Au début, ça fait mal. Après, mais si tu continues, ça fait de moins en moins mal. À un moment donné, le muscle est dur et tu peux le bouger, ça fait plus mal. Mais c'est la même chose. Ça, c'est physique. Mais dans la tête, c'est la même chose. C'est pareil.
Et tu as gardé des idées, enfin, comme tu as quand même complètement changé de vie, est-ce que tu as gardé des contacts de Montréal ou est-ce que finalement...
Ah, mais j'ai encore en contact avec plein de...
Toute ta vie a été...
J'ai gardé plein de bonnes relations dans tous les domaines, absolument. Et ça, c'est une erreur de penser aussi. Que lorsqu'on est rendu à un Y et on se pose la question, est-ce que je change, oui, non, je fais le changement, oui, non, c'est de penser que ce qu'on vient de faire, c'était une erreur ou un échec parce qu'on veut faire autre chose. Parce qu'il y en a qui pensent ça, là. Si tu as joué du violon 4 mois, ben tu dois jouer du violon toute ta vie. Parce que c'est un échec.
Tu t'es battu pour ça, t'as travaillé. Ouais, c'est ça, t'es pas allé au bout.
Mais si tu veux aller au bout, vas-y, si tu as le goût, si ça crée de la joie, d'enthousiasme, go, vas-y au bout. Là. Mais sinon, non, on va pas contre nature. Ça, tu vas mourir. Là. Si tu n'aimes pas jouer du violon, arrête de jouer du violon. Là. Mais dans la carrière, c'est la même chose. On fait le tour. À un moment donné, on sent qu'on a fait le tour.
Ouais.
Tout le monde arrive là à un moment donné. Et pourquoi on se sent vivant, c'est lorsqu'on grandit, on progresse. Ça veut dire faire des sorties de zone. Passer à un autre niveau. C'est juste passer à un autre niveau. Sans nécessairement changer de travail et de carrière.
C'est ce que tu disais,
ça peut être ça. Ça peut être des grandes sorties de zone. Mais dans ton travail, dans ta carrière, c'est qu'est-ce qui te ferait passer à un autre niveau? Qui créerait du défi, du challenge, des micro-déchirures de la tête? Ben moi, mes 3 grandes sorties de zone, sans changer de travail et de carrière, ça a été ma première conférence en anglais. Sortie de zone en anglais. J'en ai fait 8 ce jour. Et ensuite, ça a été ma première conférence en Europe. Moi, je pensais avoir atteint le sommet de l'Everest. Mais là, j'en ai donné 100. Je pensais jamais en donner 2e. On ne sait jamais où ça mène. Et ensuite, ça a été de faire des journées d'atelier avec des dirigeants d'entreprise, sortie de zone. Toujours avec mon sujet, là, ça m'a juste fait passer à un autre niveau. Très complémentaire. Ça a élargi ma zone dans mon domaine, sans changer de travail de carrière. Donc ça, c'est un exemple que je donne. Ça ne veut pas dire changer de travail et de carrière. Parfois, c'est ça. Mais dans notre travail et dans notre carrière, il y a façon, sans changer de métier, de passer à un autre niveau. Quelque chose de complémentaire, quelque chose qu'on n'a pas fait, qu'on n'a pas essayé encore. Juste pour obtenir des résultats auxquels on n'est pas habitué. Parce que si on ne fait que copier-coller, parce que c'est facile, confortable, connu, bon, on obtient toujours les mêmes résultats. Là. C'est des mathématiques.
C'est ça.
Et si tu n'essaies pas d'autre chose, si tu essaies d'autre chose, oh, là, ça se peut que tu obtiennes d'autres résultats. Différents, juste différents. Pas nécessairement meilleurs ou pires, mais différents. Juste pour mettre du piquant dans la vie, sentir qu'on progresse, qu'on évolue.
C'est très intéressant, ça. Ça fait fourmiller depuis là. Et est-ce qu'il y a des livres ou des personnes qui t'ont inspiré ou qui t'inspirent dans tes sorties de zone ou même dans ta vie tout court?
Oui, mais depuis longtemps, j'ai toujours comme, pas un modèle, mais un peu là, en tête, Richard Branson de Virgin, je pense que tu connais.
Bien sûr, oui.
Parce que lui, il n'est pas standard. Il n'est pas dans le moule, il ne suit pas le troupeau. Moi, j'aime les gens qui ne suivent pas le troupeau. Là. Des gens qui sont capables de réfléchir tout seuls et de faire des trucs.
Okay.
Alors
là,
que les autres les jugent ou on ne les attend pas. Lui, il est heureux dans la vie. Ça paraît. Il a toujours le gros sourire dans le visage. Il fait des trucs de fou. Il s'amuse. Lui, il s'amuse. Moi, j'aime les gens qui s'amusent. On se prend tellement trop au sérieux. Là. On se prend tellement trop au sérieux. C'est spectaculaire. Et plus on se prend au sérieux, plus on souffre. Ça, c'est pour moi, ça, c'est clair et net. Plus tu te prends au sérieux, plus tu as un gros ego, plus tu souffres. Et ça, je le sais.
Je l'ai vu récemment auprès d'une personne de mon entourage et c'est clair qu'on dit, mais enfin, respire.
C'est des gens auxquels on a juste le goût de dire, respire.
C'est ça, respire, relax.
Détends-toi.
C'est ça.
Mais c'est fou. Plus les gens sont rigides, plus ils souffrent.
C'est ça.
On dirait que ça vient tous... J'ai l'impression que ça vient tous des éléments qui viennent ensemble. Rigidité, rationnel, trop cérébral, analytique, rigide, lourd. Tout est dangereux, tout est coincé. Là. Coincé. Au Québec, on dirait pogné du cul. Je ne sais pas comment vous dites ça ici, là, mais coincé du cul.
Un balai dans le cul.
Un balai dans le cul. On dirait que ça vient tous ensemble. Ouais. Balai dans le cul, conservateur, rigide, peur de tout.
Ouais.
Il
faut profiter de la vie. Elle peut s'arrêter.
C'est lourd.
Ça c'est un truc, tu vois, on faisait un petit... On a lu ton livre là pendant les vacances avec mon mari, chacun à notre tour, et on s'est fait un petit débrief après sur chacun ce qu'on avait retenu. Et moi, il y a quelque chose qui m'a interpellée, et je l'avais lu également dans un livre de Christine Michaud. C'est la vie, elle peut s'arrêter demain. Ce que disait Steve Jobs,
Mais je pense toujours à ça.
Ouais, qu'est-ce que j'aurais comme regret et
Arrête tout de suite.
C'est ça.
Et je pense toujours que ça peut s'arrêter tout de suite.
Sans être fataliste, ça va arriver forcément un jour.
Un jour, tu vas avoir raison. Un jour, on va avoir raison.
C'est ça, le plus tard possible. Mais par contre, c'est se dire.
Mais ça, j'en parle en conférence. Si j'ai fait plusieurs grandes sorties de zone qui m'ont fait obtenir des résultats de fou dans ma vie à moi, là. C'est parce que je sais que je n'ai pas de temps à perdre. Je sais que dans ma tête, je me dis toujours, je n'ai pas 10 ans pour faire ça. Je n'ai pas 5 ans peut-être. Je n'ai peut-être pas, même, il me reste peut-être même pas une année pour faire le truc que j'ai à faire. Fait que c'est tout de suite, là, pas un moment donné. Là. Tout de suite. Et plus tu fais ça, plus tu as des résultats tout de suite.
Ouais.
Pas un moment donné, tout c'est de suite. Ça. Et plus tu as des résultats tout de suite, plus tu peux passer à un autre résultat et avancer. Et on entend souvent c'est quand le meilleur moment pour planter pour récolter. Si tu veux récolter les fruits de ton travail, de ton arbre, c'était quand le meilleur moment pour planter ton arbre? Ben, c'était hier. Si tu ne l'as pas planté hier, ben le meilleur moment, là, c'est aujourd'hui. C'est tout de suite. Plus tu vas attendre, plus tu vas repousser la récolte des fruits. Ce n'est que des mathématiques.
Ouais.
C'est pas de la croyance, donc c'est tout de suite.
On y va.
Tout de suite.
S'il y a des gens qui te croisent et qui te disent « Mais en fait, toi, Daniel, t'as trop de chance. » Tu leur réponds quoi?
Je peux pas être d'accord avec ça. Là. On crée notre chance. Je suis pas responsable de tout. Là. Il y a plein de choses qui me sont arrivées sur lesquelles je n'avais aucun contrôle, mais je l'ai créé, ma chance. Si ça s'est arrivé, c'est parce que je me suis mis là. Et ça, je suis convaincu de ça. Là. C'est vrai, de l'extérieur, avec le parcours, mes dernières années, c'est fou ce qui est arrivé, qui peut paraître comme de la chance, mais c'est moi je me suis mis là. Et c'était très difficile de me mettre là, c'était difficile, stressant et angoissant de vivre les changements que j'ai faits, mais je l'ai fait. Donc, c'est, le chemin se présente au fur et à mesure qu'on avance, mais non, c'est pas vrai que c'est de la chance. Ça serait m'insulter de dire que j'ai été chanceux tout le temps. OK, à chaque fois, je suis chanceux. Donc, à chaque fois, je suis chanceux. Je vais m'acheter des billets de loterie si je chante. Je ne me suis jamais acheté un billet de loterie de ma vie. T'sais, je ne crois pas à ça. Je ne crois pas à ça. Mais. Tu peux gagner. Il y a toujours des gagnants, là, mais je m'en fous. Ce n'est pas mon but dans la vie. Je veux pas, je cours pas après la chance. Ouais. Je fais ce que j'ai à faire et la chance arrive. Ce qu'on appelle la magie, les synchronicités, les planètes qui s'alignent, ça, c'est quand tu marches vers du fou. C'est là que ça arrive. Sinon, tu ne vois pas la chance. Tu ne la vois pas. Tu ne te places pas en situation d'avoir. Parce que la chance n'arrive pas quand tu restes dans ta zone, dans ton trou, dans ta fosse, à copier-coller. La chance n'arrive pas là, là. Elle arrive quand tu sors de là. C'est comme ça que tu peux être chanceux. C'est en prenant des risques.
Ouais, comme tu disais, c'est le Y. C'est savoir prendre le
droit
bon.
Droite ou gauche. Ouais,
c'est ça.
Exact.
Si tu avais un conseil à donner à quelqu'un que tu rencontres.
Suivre son ressenti. Arrêter d'analyser, cérébraliser, rationaliser, tout ça. C'est du ressenti. Et ça, c'est du fou. Et c'est pas de l'ésotérisme. Je suis certain qu'un jour, ça va être prouvé. Je peux pas être plus convaincu que ça. Je sais pas si c'est biologique. Je suis certain qu'un jour, ça va être scientifique, ce que je dis là. Mais là, ça a l'air farfelu. Là. Mais quand tu marches vers du fou, ton ressenti qui te dit très clairement que ça crée de la joie ou que tu es en train de t'éteindre, juste d'être conscient du processus, tu sortis de zone, tu vas le sentir. Dès que tu vas l'assumer, ce que tu sens, tu vas avoir peur. Et quand tu vas le faire, même si tu as peur, ça va être difficile. Tu vas vouloir abandonner, mais ça va prendre du temps. Et si tu te rends jusqu'au point de bascule, c'est là que ça va se passer. C'est mon meilleur conseil. Juste être conscient de ça. Du processus sortie de zone, toujours, toujours. Et ça, ça revient toujours dans la vie.
C'est toujours.
C'est pas la crise de la quarantaine. Mmh. C'est toujours, toute la vie. À petite échelle, moyenne échelle, personnelle, professionnelle. La Terre tourne et le changement, c'est le changement. C'est la seule chose qui ne change pas. On l'entend souvent, mais c'est ça.
Et toi, il y a eu des éléments déclencheurs dans ta vie. Donc, bon, il y a eu la maison, tu as eu la vie. Et quand tu as quitté l'agence, quand tu as vendu tes parts, est-ce qu'il y a.
Y a
tu t'es réveillé un ce matin
Il n'y a pas eu d'éléments déclencheurs. Nos insatisfactions sont directement reliées à notre potentiel non exploité. Et ça pousse petit à petit. Comme un arbre qui pousse sans que tu ne le vois pousser à chaque jour. Tu passes devant chaque jour, tu ne le vois pas pousser. Mais il pousse, là. Mais nos insatisfactions grandissent aussi. Poussent, petit à petit. Et à un moment donné, là, tu n'es plus capable. Tu dors mal, tu deviens agressif, tu prends de l'alcool. Non, puis là, tu n'es plus capable. Là, tu souffres trop. Et là, à un moment donné, tu te dis, bon, ben c'est assez. Moi, ma dernière, quand j'ai vendu ma société, il n'y a pas eu d'élément déclencheur.
Il n'y a pas eu d'élément
je n'étais plus capable, non. À un moment donné, je n'étais plus capable. Je voyais plus. C'était le cul-de-sac. Je m'acharnais. Là.
Ouais.
Je réalisais que je m'acharnais. Je ne marchais pas du tout dans la bonne direction. J'étais obligé de faire une sortie de zone. Et j'ai assumé. J'ai dit à ma femme, écoute, là, j'ai plus le choix. Je dois me quitter. Je vais vendre, peu importe le prix, je m'en fous. Ce n'est pas une question d'argent. Je dois quitter, sinon je meurs. C'est sûr.
Ouais.
Et je suis convaincu que je serais mort. J'aurais développé une maladie, ça c'est sûr. Quelque chose. C'est quelque chose de pas agréable.
Ouais.
Personne ne serait sorti gagnant de ça. Personne. Pas ma famille, pas mes enfants, personne.
Avant qu'on se quitte, est-ce que tu as envie de dire merci à quelqu'un et pourquoi?
Et à plein de gens. Je peux pas dire merci juste à une personne. Ça serait insulter les autres. Mais c'est une succession de rencontres. Merci à toutes les personnes qui ont croisé, sans le savoir. Puis les gens ne sont pas nécessairement conscients de ça, là. À quel point il nous aide. On aide tous quelqu'un. Tout le monde aide d'autres sans le savoir. Juste en partageant son histoire, toi en faisant des entrevues, t'aides des gens que tu connais même pas, que tu n'as aucune idée, que ça va aider parce qu'ils ont entendu ton entrevue. Mais ce sont tous les gens que j'ai croisés. La vie est bien faite. Je pense qu'il n'y a pas de hasard, comme de fait. On l'entend souvent ça aussi, mais je crois aussi à ça. Donc, c'est toutes les personnes qui ont croisé mon chemin. Vous vous reconnaissez, je ne veux pas nommer personne en particulier. Mais surtout, oui, ma femme et mes enfants. Et mes parents, oui. Ça serait le cercle très proche qui m'a toujours encouragé là-dedans.
Merci beaucoup, Daniel.
Ça me fait plaisir.
À bientôt.
À bientôt.
Un double merci à la PM. La PM, qu'est-ce que c'est? C'est l'Association pour le Management. Merci de nous avoir accueillis dans leurs locaux pour cet enregistrement. Et car indirectement, j'ai connu Daniel grâce à eux. En effet, mon mari a assisté à une conférence d'une autre Canadienne incroyable, Christine Michaud, que j'aurai le plaisir d'interviewer en mars prochain. Et grâce à la découverte du parcours de Christine, j'ai découvert Daniel. Comme je vous le disais au début de l'épisode, j'ai une petite surprise pour vous. Daniel fait une conférence à Paris le 2 février prochain et il est heureux d'offrir des places aux auditeurs de Pourquoi pas moi. Plus de détails sur le compte Instagram pourquoipasmoi.podcast ou sur mon profil LinkedIn. Et n'oubliez pas, j'ai besoin de vous, j'ai encore besoin de vous pour parler autour de vous de Pourquoi pas moi, de mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et vous abonner sur Spotify, Deezer. Merci et à très bientôt pour un nouvel épisode de Pourquoi pas moi.